sujet avant qu'il soit sur le devant de la scène. Flair journalistique alors ? Si c'est vous qui le dites, nous prenons. Et ceci dit, nous voilà partis pour une heure d'émission sans publicité ni fake news. Et avec toute notre équipe, et présentée aujourd'hui à quatre mains avec Anne-Marie, qui va vous expliquer la suite du programme, et il est riche.
Oui, Michel. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Durant cette émission, nous allons essayer de définir ce qui se cache derrière les mots, les phobies, les peurs, tics, manies, tocs, rituels et même les croyances et superstitions. Nous avons certainement dans notre propre notre propre définition, plus ou moins précise ou imparfaite concernant ces mots. Et pourtant, dans notre vécu, nous avons probablement été confrontés à des situations de peur, de phobie ou de manie, sans toutefois bien les identifier et les comprendre. Alors aujourd'hui, avec Michel, Gertrude, Missy, Marie-Claude, Sylvie, Florence, Michel et moi-même Anne-Marie, nous allons, à travers des chroniques, des témoignages et des interviews, essayer d'analyser tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Parce que poser le mot juste sur un constat permet un éclairage plus précis et une avancée dans la compréhension. Bonne émission!
Restez avec nous sur Principe Actif 102.4 95.9. Bonne écoute.
Alors, un rapport avec la santé mentale, Gertrude?
Oui, bien sûr. Oh, les tracas de la vie. Mais pourquoi dans certaines circonstances, une anxiété intense perturbe-t-elle notre quotidien et finit par empoisonner notre vie? Mais avant d'aborder le thème de notre chronique, mais je vous invite à prendre un court instant et décoller avec moi. Oh, nous voilà bien installés, paisiblement et confortablement dans la salle d'embarquement. Et soudain, on vous annonce. Les passagers du vol 27 en direction d'Évreux sont priés de se présenter à la porte A13. Mais à cet instant, c'est la panique. Le cœur s'accélère, les mains moites, une boule au ventre. Et pourtant, aucune menace est réelle, aucun danger à l'horizon. Juste cette peur qui nous envahit. Mais d'un coup d'un seul, je m'interroge. Mais chaque fois que je m'apprête à prendre l'avion, cette peur refait surface. Mais pourquoi? Mais c'est une simple peur ou une phobie d'avion. Ben, sachez que ces états d'anxiété peuvent nous toucher de près ou de loin. Mais apparemment, ils se déclencheraient dès l'enfance, voire à l'adolescence. Mais souvent, ils se manifestent dans des situations particulières. Par exemple, parler en public, se retrouver dans des espaces clos, croiser certains animaux, la plupart c'est les serpents, les araignées, et j'en passe. Mais évoquer le sujet des phobies, mais c'est parler de la santé mentale. Mais car il n'y a pas de santé physique sans la santé mentale. On dit souvent, quand la tête va, tout va. On y ajoute aussi que tout est dans la tête. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé mentale est notre capacité de faire face aux épreuves de la vie, mais qu'elles soient professionnelles, personnelles ou scolaires. Mais parfois, cet équilibre fragile peut-être perturbé par notre environnement, par des événements bons ou mauvais, et surtout par le stress auquel nous sommes exposés. Mais regarde bien, la pandémie du Covid-19 a mis à lumière l'état de santé des Français. Mais en revanche, les Jeux Olympiques de 2024 ont montré que le moral des Français pouvait remonter. Mais c'est pour ça l'État a déclaré 2025 comme l'année de la santé mentale. Mais d'après les statistiques, un Français sur deux connaît ou connaîtra une fragilité psychique au cours de sa vie. Mais cela signifie que les troubles d'anxiété nous guettent et peuvent être très pesants. Malheureusement, ces troubles restent souvent tabous, même considérée comme une faiblesse. Alors, lorsque l'anxiété prend de l'ampleur, il est crucial quand même d'en parler à un professionnel. Ça signifie prendre soin de soi. Nous avons de la chance d'avoir de nombreux professionnels, des psychologues, des psychiatres, des sophrologues et même des formateurs en santé mentale qui nous enseignent des bons gestes simples pour mieux gérer nos émotions. Mais vous voyez, il y a du choix. Mais si cela vous intéresse, appelez la radio Principe Actif hein, au 02 32 62 57 32. Mais je vous donnerai quelques coordonnées. Vous pouvez même laisser un message sur le répondeur. Bonne écoute.
Maintenant, nous allons écouter Michel. Michel et son témoignage. Alors, Michel, peur, pas peur? Peur de quoi? À toi, Michel.
Deauville, un soir de 14 juillet. Beaucoup de monde, place Morny. Des rires, des chants, des pétards. C'est la fête. Et moi, j'éclate en sanglots. Ma mère inquiète me demande ce qui m'arrive. Incapable de parler, je lui montre de ma petite main d'une gamine de 5 ans un homme en face de moi. Il a le visage tout noir. C'est la première fois que je fais une telle rencontre. Et cette rencontre a marqué dans mes souvenirs le début de ma peur du noir. L'année de mes 7 ans, je rentre au catéchisme. Les cours sont donnés par un abbé, un jeune abbé, rondouillard, au rire facile, bref, d'un abord sympathique. Mais ce qu'il nous enseigne ne me plaît guère. Je n'aime pas quand il nous parle d'un Dieu éternel, de l'enfer, de l'apocalypse. La nuit me reviennent en tête ces cours et j'essaie d'imaginer ce qu'est l'éternité, la fin du monde. C'est affreux. Je ne réussis pas à concrétiser ces notions. L'angoisse s'empare de moi. Dans ma tête de fillette, je n'arrive pas à imaginer comment cela sera quand on sera mort et que cela ne s'arrêtera jamais. Autour de moi, le noir. Je suis effrayée. De la chambre voisine, mes parents m'entendent pleurer et s'empressent de venir me retrouver. Les jours suivants, mon père, qui est électricien, me fabrique une veilleuse en reliant à un transformateur une petite ampoule comme celle des lampes de poche. Devenu adulte, je n'ai plus ma petite veilleuse fabriquée par mon papa, car j'ai quitté le domaine familial après avoir commencé à travailler. Dans tous les appartements que j'occupe, je me débrouille toujours pour ne pas affronter les ténèbres. Dans mes différentes chambres, soit j'entr'ouvre les volets, soit je tire un peu le rideau pour laisser entrer les lumières de la ville. Bref, j'imagine toujours des trucs pour échapper à la peur du noir. Chez moi, il y a toujours eu un stock de bougies, de lampes de poche en cas de panne d'électricité. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à cette époque, je m'habille souvent en noir, devenu pour moi le comble de l'élégance, et non plus le symbole du deuil, la couleur de la mort. Arrivé à un âge respectable, je suis maintenant vêtue de bleu, et ma maison aussi, comme la couleur des yeux des êtres qui m'étaient très chers. Bleu, symbole de l'apaisement. Peut-être la énième façon de combattre ma peur du noir. Arrivé au terme de ma vie, je ne pense pas avoir été victime d'une phobie, mais de la peur d'une petite fille qui a su, en prenant de l'âge, se débrouiller, se raisonner pour dominer cette émotion.
Il faut dormir maintenant, les parents veillent sur vous, tout est calme et rassurant, bonne nuit petit loup. Blotti au fond de vos draps, les étoiles ont fait leur nid, c'est Morphée qui vous tend les bras. Bonne nuit, mes chéris.
J'entends comme un bruit qui remue dans le placard, un cliquetis gesticulant dans le noir, ce doit être le vent, voilà ce qu'on me dit tout le temps.
J'entends quelqu'un qui respire derrière ma porte, une espèce de vampire à moitié cloporte, ce doit être dans ma tête, voilà ce que l'on me répète.
J'entends sur le toit comme des bruits de pas, comme si Dracula tentait de rentrer chez moi, c'est mon imagination, voilà ce que l'on me répond.
J'ai peur du Les sommiers comme des araignées qui grouillent par centaines et par milliers. Ça doit être un bruit qui court, voilà ce qu'on me dit toujours.
Un monstre barbu, avec des yeux sur les ongles verts moulus, patiente tapis dans l'ombre, mais c'est moi qui débloque, voilà ce que l'on me rétorque.
C'est quand tout s'éteint que ça commence à défiler, sorcière lutin envahisse le plancher, mais c'est moi qui perds les pédales, voilà comment les gens me parlent. C'est plus fort que moi, j'en devine partout. J'ai peur du noir.
Pour rien, et c'est fait exprès.
On me fait croire
qu'il n'y a rien, mais c'est même pas vrai.
J'ai peur du noir.
J'ai plus rien, j'ai pas fait exprès.
Il faut me croire.
Jusqu'ici, tout va bien, et après.
Le soleil arrive enfin, debout les petits loups. Sachez que les seuls monstres qu'il y ait ici, c'est vous.
C'était La peur du noir par Aldebert. Vous êtes en direct sur Principe Actif pour notre émission mensuelle de 12h30 à 13h30 DVNO VDPT.
Et voilà, nous abordons maintenant l'interview avec, et nous recevons aujourd'hui Monsieur Perron, psychologue à Évreux.
Enchanté.
Et qui va d'abord se présenter, mais surtout qui va nous apporter peut-être un éclairage ou différent ou plus, technique sur ce que sont les phobies, les manies, etc. À vous, monsieur.
Très bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Monsieur Perron Maximilien, je suis psychologue à Évreux. J'ai bossé dans pas mal de domaines, que ce soit le milieu hospitalier, le milieu associatif, auprès du handicap, ou en soins palliatifs et en cancérologie. Donc voilà, j'ai une vision assez généraliste de la psychologie. Alors, les phobies, les manies, les obsessions, les tocs, les tics, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent avoir des points communs. Hein. Ce sont tous évidemment des symptômes et des fonctionnements psychiques qui ont chacune leur particularité, dans le sens où dans la phobie, ou que ce soit les tocs, ou finalement peut-être on pourrait dire tous les symptômes psychiques et toutes les pathologies psychiques, il y a un point commun qui est qu'elles font diversion. C'est-à-dire que quand on est en train, par exemple, d'imaginer qu'on doit se laver les mains plusieurs fois, des dizaines de fois par jour pour certaines personnes, ou qu'on doit faire le ménage dans sa maison, c'est ce qu'on appelle des obsessions, des choses qui reviennent de manière extrêmement récurrente dans l'esprit humain, et on pourrait se dire qu'elles sont des fois bien inutiles. Cependant, les gens ne peuvent pas faire autrement que de les ressentir. Déjà dans les deux exemples, un petit peu des deux récits qu'on a pu écouter précédemment, on voyait bien ce genre de logique où il y a quelque chose qui s'impose à la personne. Donc ça, c'est une manifestation de ce qu'on appelle l'inconscient, de toute cette partie de notre esprit qui fonctionne finalement à l'insu de notre plein gré. Et des fois, finalement, on se construit petit à petit en étant un peu dupe de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de fonctionnements sur lesquels on a le sentiment de ne pouvoir avoir aucune maîtrise. Alors c'est là que peut intervenir par exemple une psychothérapie, c'est-à-dire prendre conscience de nos fonctionnements inconscients et essayer de leur donner du sens. Alors spécifiquement, il est intéressant de classifier, de définir un petit peu mieux les différentes pathologies. Donc par exemple, ce que dans le langage commun on appelle des manies, c'est un terme, là pour le coup c'est intéressant pour la culture générale j'ai envie de dire, qui est un terme qui a été détourné de son sens premier. La psychose maniaco-dépressive, c'est quelqu'un qui va avoir des montées maniaques, c'est-à-dire des sentiments extrêmement exaltés, la possibilité d'acheter, je sais pas, une Ferrari ou toute une cuisine dans la journée alors qu'il n'a pas les fonds pour ça. Et puis par d'autres moments, la semaine suivante ou un autre moment de la journée, il va avoir un sentiment dépressif très très intense, avec des idées peut-être des fois suicidaires ou des angoisses vraiment extrêmes. Mais finalement, dans le langage commun, on a utilisé ce terme manie pour l'appliquer à quelque chose de très différent, qui sont ce qu'on appelle en psychologie, plus spécifiquement, les obsessions. Donc, par exemple, l'obsession, la manie de la propreté. Donc, c'est intéressant, juste voilà, pour la culture générale, de savoir que c'est un terme qui est complètement utilisé de manière très différente par rapport à la manière dont il a été imaginé à la base.
Et alors, les phobies, c'est quoi exactement ? C'est plus prégnant,
c'est... Alors, la phobie, c'est vraiment un fonctionnement très spécifique, hein, qui est un fonctionnement à la base obsessionnel. On a des obsessions pour telle ou telle situation, objet, rituel. Et la phobie, spécifiquement, on va avoir des phobies, évidemment, autour des animaux, autour des lieux clos, au contraire des espaces ouverts, la phobie de la foule. Il y a même ce qu'on appelle l'agoraphobie, qui est vraiment une phobie généralisée, où les gens ne peuvent des fois même plus sortir de chez eux. Donc ça peut être extrêmement intense, une phobie. Mais une phobie, finalement, la personne, elle s'en rend compte toujours. Elle est toujours capable de dire « je souffre de ça » et « je ne sais pas comment faire autrement pour le ressentir ».
Elle est consciente, en fait, de...
Une personne qui a des phobies, elle est consciente de ses phobies, en général.
D'accord. Hein,
oui. Et c'est même tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'elle va verbaliser assez souvent, d'ailleurs, qu'elle est phobique. C'est une sorte d'affirmation de soi, c'est une part de son identité, d'une certaine manière. Mm-hmm. Et c'est pour ça que, des fois, c'est difficile de renoncer à une phobie, parce que à tout symptôme psychique, il y a des bénéfices secondaires. Hein, un fumeur, par exemple, sait très bien que fumer, c'est mauvais pour lui, c'est écrit sur tous les paquets de cigarettes, et pourtant, il ne peut pas faire autrement que de fumer. Mm. Alors, il y a évidemment l'addiction à la nicotine, mais il y a aussi tout un tas de bénéfices secondaires. Ça structure le temps, ça donne une récompense, ça permet de se sentir sevré de quelque chose. Et donc, il n'arrive pas à renoncer à ça parce qu'il y a ces bénéfices secondaires. Si fumer, c'était que négatif, et on puis, y renoncerait facilement.
Et puis, on a les mains qui sont occupées.
Tout à fait, oui, c'est quelque chose de contenant qui nous permet de nous sentir, en effet, occupés. Et c'est un petit peu, et là, ça me permet de boucler sur ce que j'avais commencé par dire au début, c'est-à-dire que tous les symptômes psychiques, toutes les pathologies psychiques sont des diversions par rapport à des angoisses bien plus grandes, qui sont par exemple des angoisses d'abandon, des angoisses de mort, des angoisses de morcellement, qui sont des angoisses très primitives, qui sont des angoisses qu'on a depuis qu'on est tout petit. Hein, quand on est enfant, on a toutes ces angoisses-là, j'ai envie de dire, un peu au même niveau. Et puis quand on devient adulte, eh ben, on va se cristalliser sur une ou l'autre de ces angoisses. On va, ça va être un petit peu notre private joke à nous. Et donc on va, comme madame l'a dit tout à l'heure, se focaliser par exemple sur la peur du noir, ou sur la peur de monter dans un avion, ou sur la peur des microbes, ou sur la peur de parler en public. Alors il y a une infinité, j'ai envie de dire, de phobies possibles.
On a découvert ça, oui, en cherchant.
C'est-à-dire que finalement, chaque personne va avoir sa phobie à soi, hein, qui va dépendre un petit peu de son histoire et de ce qu'il s'est raconté à lui-même dans l'enfance.
Et alors, il y a des traitements, je suppose. Est-ce que vous avez reçu dans votre cabinet, ou est-ce que vous êtes amené à traiter des phobies?
Alors, j'aime pas trop la logique de traitement d'une maladie psychique, je vous en prie, mais parce que on ne guérit pas de la vie.
D'accord.
C'est-à-dire que la vie, c'est pas un problème en soi, on n'a pas une maladie qu'on porte, je n'aime pas trop cette logique, chaque humain a sa particularité, a ses traumatismes, qui peuvent être des fois extrêmement forts et profonds, et il va se développer des mécanismes de défense face à ces traumatismes. C'est pour ça que, même si on retrouve des grandes catégories comme les phobies, mais chaque phobie est unique, ou quelqu'un qui va avoir une tendance à être paranoïaque, par exemple, ça va s'être construit dans son histoire. Hein, c'est toujours quelque chose de très spécifique à l'individu, et c'est pour ça que... La seule thérapie qu'il peut y avoir, c'est d'aller chez un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, et de travailler sur son histoire pour pouvoir donner du sens à ses phobies, et j'ai envie de dire être moins dupe de soi-même.
D'accord. Michel voudrait vous poser une question.
Je vous écoute, Michel.
Face à un phobique, quelles sont vos paroles ?
Alors, mes paroles, c'est d'abord d'écouter ce qu'il a à dire, c'est de donner du sens à sa phobie. Hein. Ce qui est plus difficile dans la vie, face à toutes les problématiques que je rencontre face à mes patients, c'est de donner du sens à l'arbitraire de la vie. Hein. On a vu tout à l'heure dans les récits qui étaient faits qu'il y a souvent un point de départ à la phobie, un point de départ banal, un point de départ qui est venu toucher l'enfant qu'on était, et cet enfant, il va se raconter une histoire autour, il va donner du sens à ce qu'il peut, et on peut faire par exemple le parallèle aussi avec les superstitions. Toute superstition comme ça, c'est une manière de donner du sens à quelque chose de très universel ou au contraire de très subjectif. Hein, je pense à un ami qui un jour m'a dit, alors qu'il venait de perdre sa mère 2 jours avant, « Ah, j'ai vu un arc-en-ciel cet après-midi, c'est ma mère qui monte au ciel. » Ça lui a fait un bien fou de penser ça. Ça a donné du sens à ce qu'il était en train de vivre. Moi, j'aurais vu l'arc-en-ciel où les 500 personnes qui l'ont vu autour ne se sont probablement pas dit la même chose. Il a rendu quelque chose de très banal comme quelque chose de très subjectif qui lui a donné du sens à lui. Et je crois que c'est ce qu'on fait tous. On se raconte des histoires. Et ces histoires, elles peuvent être nous donner du sens à l'arbitraire des choses. Hein. Une dame a un gamin de 10 ans qui a un cancer. Il va falloir qu'elle donne du sens à ça. Alors elle va peut-être chercher dans les études scientifiques, elle va peut-être chercher dans, la génétique, elle va faire des analyses, ou peut-être qu'elle va se dire que c'est son voisin qui a mis du pesticide dans son jardin. Elle va chercher du sens, parce que c'est tellement arbitraire et tellement dégueulasse qu'à un moment, il faut chercher comme ça à structurer l'arbitraire des choses. Et c'est ça qu'on fait à travers les phobies, à travers les manies, à travers tous les fonctionnements, les TOC. Alors les TOC, c'est un petit peu particulier, c'est des pensées obsédantes, hein, troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire on a des compulsions, on peut pas s'empêcher d'avoir des rituels ou des pensées dans sa tête. On va décompter dans sa tête des chiffres. Comme vous savez, on l'a tous fait quand on était gamin, de marcher par exemple sur les lignes ou sur les carrés, on marche sur des carreaux par terre. Et ça a une importance folle quand on est enfant. C'est-à-dire que les crocodiles vont nous bouffer si on ne marche pas sur la bonne ligne. Et bien l'adulte, il est exactement cet enfant qui a grandi et qui va se raconter peut-être une histoire un peu plus élaborée, mais qui reste son histoire personnelle. Et donc quand on va chez le psy, eh bien on déconstruit cette histoire et ça permet d'être un peu moins dupe de soi-même, ça permet d'affronter ses peurs et de se rendre compte que peut-être que monter dans un avion, c'est pas tant ça qui me fait peur, que la possibilité de devoir me sortir les doigts des fesses et être capable de m'occuper de moi-même dans un pays que je ne connais pas, de parler la langue, de résoudre des problèmes. Et c'est peut-être tout ça qui est contenu dans la phobie de monter dans cet avion.
Ouais, alors vous avez dit à un moment donné, c'est pas une question de guérison, mais on ne se libère jamais en fait de ces phobies.
On apprend à vivre avec soi-même. C'est ça qu'on fait chez un psychothérapeute, c'est que on change pas sa vie, on va pas changer le passé. Personne n'a ce pouvoir et cette baguette magique. Par contre, je vous dis, on est moins dupe de soi-même et des fois on accepte, on a de l'indulgence envers soi-même. On a le droit d'avoir peur de monter dans un avion. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Passer 12 heures assis à regarder 3 films qu'on a déjà vus, c'est chiant. À manger de la nourriture pas terrible, c'est chiant. Et évidemment que s'il y a un accident, on ne peut rien faire. Mmh. Et c'est cette sensation, encore une fois, de l'arbitraire des choses qui nous pèse. Donc c'est là qu'il s'agit d'être adulte, c'est-à-dire de dépasser ses peurs et de se dire « ça m'emmerde, mais je le fais quand même ».
Est-ce que dans les patients que vous recevez, vous traitez, enfin non, c'est pas le bon terme, vous accompagnez beaucoup de phobiques ou de gens qui veulent dépasser cette
Alors cet c'est écart. Intéressant de faire la nuance, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent avec ce symptôme, qui mettent en avant, c'est vraiment leur porte d'entrée. Ils me disent, voilà, je sors de chez moi, je suis obligé de vérifier 100 fois la clenche, la poignée, pour voilà, est-ce que c'est fermé ou pas. Et ils viennent pour ça. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas même conscience d'être dans ce genre de fonctionnement. Et c'est à travers nos échanges qu'on va petit à petit faire ressortir qu'en effet, ils ont des tics, des tocs, des tacs, tout ce que vous voulez. Hein, on en a tous parce que c'est le fonctionnement normal de l'esprit humain. Simplement, il y a des situations, des moments où ça va se focaliser, se cristalliser et devenir invivable. Et puis il y a quelque chose qui est en rapport avec le vieillissement aussi, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus on est dans l'épure, plus on a creusé des sillons des fois pendant des années, et plus des fois il est compliqué de tracer un autre chemin. Donc,
Michel.
Juste une dernière question rapide, est-ce que c'est grave de ne pas avoir de phobie, de TOC ou de manie?
Ah, ça c'est bien, oui.
En général, on a d'autres symptômes qui peuvent prendre d'autres formes.
Oui, ça révèle quoi finalement?
Je dirais qu'une personne normale, elle a toujours des petites phobies, des petits tocs, mais c'est une question d'intensité et c'est souvent des moments de vie qui vont faire que on va le vivre plus ou moins bien. On peut se laver les mains 10 fois par jour et être très bien avec ça pendant des années. Et puis un jour, on est passé à 50 fois par jour. Et là, ça devient insupportable, les mains sont sèches, on a mal. Et puis les autres nous le disent, mais pourquoi tu fais ça? Et là, ça, on va aller travailler dessus. Alors, je donne juste une petite référence comme ça. Ceux qui veulent bien comprendre comment fonctionnent les tics et les tocs, allez voir la série Bref de Kian Kojandi, la deuxième saison. Et lui-même se met en scène avec ses tics et ses tocs. Et c'est très bien expliqué, c'est très finement montré comment ce qui se joue pour une personne comme ça. Et quand il va mal, il en a plus, et quand il va mieux, il en a moins. Hein, c'est vraiment un mécanisme de défense, c'est une protection contre l'arbitraire de la vie.
Merci pour cette première partie. On se retrouvera plus tard pour échanger et puis pour encore d'autres questions, si vous voulez bien. Merci.
Très bien, je vous remercie.
Et c'est à maintenant...
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Attention, à qui ? À quoi ? Je sais pas vraiment, mais bon, je les crois. Ils me l'ont tellement sermonné que j'ai fini par tout avaler. Maintenant, je reste tout seul chez moi. Je les écoute et je les crois. Ah, j'ai peur qu'on fouille dans mes poches quand j'essaye d'aller travailler. J'ai peur qu'on me trouve un peu trop moche ou trop gros, mal habillé. J'ai peur des jeunes en bas de chez moi qui refont le monde sans arrêt. J'ai peur des gens que je connais pas et même de certains que je connais. J'ai peur de tout autour de moi. J'ai peur de tout, oui mais pourquoi? J'ai peur de tout autour de moi. J'ai peur de tout, de quoi? J'ai peur de tout, j'ai peur d'un rien. Peur de la nuit et du lendemain. J'ai peur de tout ce qu'on dit sur moi. Encore plus de ce qu'on ne dit pas. Maintenant j'ai même peur de mon pays. Je fais plus rien comme ils m'ont dit. Je laisse les puissants s'occuper de mes phobies et je me tais. J'ai peur quand il y a trop de monde autour de moi, je me sens serré. J'ai peur quand il n'y a plus personne à la fin pour me réchauffer. J'ai peur quand il y a trop de monde autour de moi, je me sens serré. J'ai peur de me retrouver seul, abandonné. Je prends plus les transports publics. Une fois la nuit tombée, c'est plein de jeunes, tous alcooliques, qui savent jamais là où aller.
C'était Peur de tout par les yeux de la tête.
Ouvre bien vos oreilles et rejoignez-nous sur Principe Actif au point 52.4 de 12h30 à 13h30 sur l'émission de Vous à nous. On vous dit presque tout.
Et on continue avec Missy et sa chronique sur toutes ces petites manies. Les tics, les tocs, tic-toc. Allez Missy, on t'écoute.
Eh oui, certaines sont charmantes, d'autres un peu pénibles. Bonnes ou mauvaises, nous avons toutes nos petites manies. Ne dites pas non. J'entends par là des habitudes, des idées fixes, des petits trains-trains qui nous accompagnent au quotidien. Moi, j'en ai et je m'en suis rendu compte en rédigeant cet article. Il y en a des ridicules, bénignes, incohérentes, absurdes. Mais que voulez-vous ? C'est parfois rassurant d'avoir des petits rituels, surtout quand on a tendance à être un peu anxieux. Tant que ça ne fait de mal à personne, je serais bien curieuse de connaître les vôtres. Certaines manies procurent une sensation agréable, des manies mignonnes, comme boire son café toujours dans la même tasse, vérifier deux fois si la porte est fermée, relire un message trois fois. C'est un peu le fond de notre personnalité. Moi, j'ai plutôt des manies de contrôle, ranger, nettoyer, mettre de l'ordre. C'est une façon simple de calmer mon cerveau. Ça me donne un sentiment de clarté. Nous avons des manies car notre cerveau aime les micro-récompenses. Mais quand les manies deviennent de manière incontrôlable, compulsive, jusqu'à